Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur le covoiturage libre, sans commission, coopératif, avec nos invités, excusez-moi, Bastien Sibyl, président de Mobicop, et Bénédicte Rose, directrice générale de Mobicop. Donc nous avons déjà vérifié que les deux invités sont avec nous. Bonjour Bastien.
Bonjour Fred.
Bonjour Bénédicte.
Bonjour Fred, bonjour tout le monde.
Alors on va commencer par simplement une petite question traditionnelle, une petite présentation personnelle rapide. On va commencer par Bénédicte Rose.
Oui, alors je suis donc Bénédicte Rose, directrice générale de Mobicop. Je travaille depuis maintenant 6 ans sur les questions de mobilité, plutôt rurale et périurbaine, puisque je viens du dispositif Réseau Bus, donc un dispositif d'autostop déployé en zone rurale et périurbaine, et qui part de l'idée de faciliter en fait de l'autostop, de surtout pas remettre des voitures en circulation, mais de s'appuyer sur les flux et donc de remettre du jour l'autostop.
Ok, merci Bénédicte. Alors j'espère que c'est compréhensible pour les gens qui nous écoutent. N'hésitez pas à nous le dire sur le salon web de la radio, parce qu'il y avait quelques coupures. Mais donc on va passer maintenant à une présentation de Bastien. Bastien Sibyl.
Oui, bah écoute, Fred, tu as déjà résumé ce que je fais, l'essentiel de mes journées, puisque je suis donc président du directoire de la coopérative Mobicop, c'est ce qui m'occupe pour l'essentiel. Je suis également engagé dans la coopérative Enercop, dont je suis administrateur et membre du bureau, et je travaille depuis maintenant une vingtaine d'années sur les questions d'innovation sociale numérique, c'est-à-dire de savoir comment est-ce qu'on peut utiliser le numérique pour améliorer la relation avec les gens, les façons de produire, de consommer, etc. Et notamment, je suis pas mal intervenu ces derniers temps sur la question des plateformes coopératives, donc toute la dimension collaborative de l'économie numérique et des façons de l'envisager autrement.
D'accord, ok. Alors, on va aborder notre premier sujet, tout simplement. J'ai dit que le titre, c'était « Covoiturage libre, sans commission et coopératif ». On va essayer d'expliquer les quatre mots. Alors, le premier paraît à peu près évident, mais on va quand même essayer de le rappeler. C'est quoi, le covoiturage, Bastien?
Le covoiturage, c'est très simple. C'est le fait de partager sa voiture pour un trajet en ne partageant que les frais liés au trajet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rémunération de la personne qui conduit. On est bien dans un partage des frais d'essence, des frais de péage. Voilà. Et donc, on part d'un point A à un point B en emmenant d'autres personnes dans sa voiture.
D'accord. La plupart des gens qui ont entendu parler de covoiturage, ou peut-être même qui pratiquent le covoiturage, il y a un nom qui revient assez rapidement, en fait, c'est Blablacar, qui doit sans doute être en situation de gros monopole en France et ailleurs. Alors finalement, on pourrait se dire, s'il y a déjà un acteur, enfin une plateforme qui existe comme Blablacar, pourquoi une autre plateforme? Et est-ce que Blablacar pose des problèmes? Et quels problèmes? Qui veut m'expliquer les problèmes que peut poser une plateforme comme Blablacar? Qui veut commencer, Bénédicte ou Bastien?
Moi, je vais parler du point de vue des utilisateurs et utilisatrices. En fait, le choix de Mobicop, en fait, c'est de ne pas commissionner. Donc, ça veut dire que les sommes intégralement versées du passager vers le conducteur sont intégralement remises au conducteur. Mobicop ne prend aucune commission, donc, dans les transactions. Un des deuxième point important, c'est qu'au final, Bastien, c'est que le coût du trajet n'est pas lié à une offre, à une demande, mais lié à une distance, et ça permet au conducteur, finalement, de rentrer dans ses frais, mais en aucun cas, ça n'est lucratif.
On va essayer de continuer comme ça. Les gens qui nous écoutent, n'hésitez pas. Donc, on comprend les grandes lignes. Bon, si on a un souci, peut-être qu'on basculera à ce moment-là, peut-être Bénédicte en téléphone, on va voir. Donc, attendez, j'en étais où moi? Oui, effectivement. Donc, Blablacar, je ne sais plus d'ailleurs quand Blablacar s'est créé, mais est-ce que finalement la création de Mobicop, peut-être un point de vue historique d'ailleurs, tiens, Bastien Sibyl, quand s'est créé Mobicop et à quelle occasion? Dans quel contexte?
Alors, en fait. Oui, Mobicop, c'est une histoire qui commence à être un peu ancienne si on prend l'histoire courte du numérique, parce que Mobicop, ça vient d'une plateforme qui s'appelle Covoiturage Libre. Et Covoiturage Libre, c'est né au moment où Blablacar a trouvé son modèle économique, c'est-à-dire qu'il s'est mis à imposer une commission. Blablacar, qui était avant covoiturage.fr, a réalisé autour de 2010 une levée de fonds sur la base d'un modèle économique basé sur la commission, et à ce moment-là, c'est transformé en Blablacar. Et là, il y a toute une partie de la communauté des utilisateurs ce qui s'est appelé Blablacar, qui a été assez énervée, en fait, il faut le dire, assez énervée par l'imposition de cette commission. Et peut-être un mot là-dessus quand même, parce que c'est important. Pourquoi est-ce que les gens ont été énervés ? Les gens étaient énervés parce que le fait de covoiturer, c'est avant tout le fait de faire un acte de solidarité en ouvrant sa voiture, en permettant à quelqu'un d'autre de bénéficier d'un trajet, de partager un moment, de partager un déplacement. C'est pas rien de partager sa mobilité, c'est quelque chose d'assez intime. Et le fait que cet acte de solidarité soudainement soit mis sur le marché, c'est-à-dire qu'il soit marchandisé, qu'on lui donne une valeur, et qui plus est que cette valeur soit captée par la plateforme de médiation, en partie captée par la plateforme de médiation qui était BlaBlaCar, il y a tout un tas de gens qui ont dit « c'est pas possible, moi l'acte de solidarité que je fais quand je partage ma voiture doit rester dans le domaine de la solidarité, ne doit pas devenir à la fois source de rémunération pour une plateforme d'intermédiation, et qui plus est source de rémunération pour des actionnaires qui ont fortement investi dans la plateforme forme d'intermédiation. Et c'est comme ça qu'est né Covoiturage Libre. C'est une plateforme qui a vécu presque de rien pendant plusieurs années, c'est-à-dire il y avait quelques bénévoles, mais c'était... Alors le fondateur Nicolas Reynaud avait beaucoup d'énergie, mais après il y a eu des bénévoles qui ont été plus ou moins lointain, et la communauté, en fait, d'elle-même a réussi à faire vivre cette plateforme jusqu'à ce que... parce que plusieurs personnes se sont rencontrées, on transforme cette association Covoiturage Libre en une coopérative qui s'est appelée Mobicop, et ça c'était en 2018.
D'accord. Alors on va dans le point suivant, justement détailler Mobicop. Je fais un point technique par rapport à Bénédicte. Bénédicte, si tu peux regarder sur le salon Mumble, Isabella, donc ma collègue qui est en régie, t'a donné un numéro de téléphone pour appeler. On va essayer de te passer par téléphone, ce sera sans doute plus efficace. Et donc je vais poursuivre avec Bastien en attendant, mais toujours avant de parler de Mobicop, sur ce que tu viens d'expliquer, est-ce que finalement ce qui était reproché à BlaBlaCar quelque part, c'était de trahir l'esprit du covoiturage, et notamment peut-être que c'est-à-dire qu'on, comme tu le disais, on partage les frais de route et on s'arrange entre nous, et est-ce qu'il y avait une tendance peut-être à considérer, alors je ne sais pas, parce que je ne suis pas utilisateur de ce genre de plateforme, mais est-ce qu'il n'y avait pas une tendance peut-être pour les utilisateurs à considérer finalement les gens du covoiturage comme des sortes de professionnels entre guillemets, peut-être taxi ou autre, et donc de perdre ce côté humain? Est-ce que c'était un des reproches qu'on faisait avec BlaBlaCar?
Deux éléments dans ma réponse. La première, parce que je suis souvent conduit à ça dans la presse, et puis après ça c'est un peu inconfortable, pour dire que nous on s'oppose pas à BlaBlaCar. Je veux dire, c'est bien qu'il y ait eu BlaBlaCar. BlaBlaCar a permis à la question du covoiturage de devenir une question beaucoup plus connue du grand public. Le covoiturage était jusque-là assez marginal, je dirais, et il a acquis une vraie visibilité. Bon, une fois que j'ai dit ça, je crois qu'il faut dans le monde qu'il y ait une forme de biodiversité des acteurs, et donc qu'à côté et en face de BlaBlaCar, des acteurs qui, eux, soient plus coopératifs et soient pas des sociétés de capitaux. Pourquoi ? Précisément par rapport à ce que tu viens de dire, Fred. C'est-à-dire que ce que les gens ont décrié dans l'action de BlaBlaCar sur le covoiturage, c'est que BlaBlaCar étant une société de capitaux, BlaBlaCar a conduit le covoiturage à devenir un acte proche du marché, c'est-à-dire à moitié commercialisé. Et c'est ce à quoi tu fais référence quand tu dis que les gens entrant dans les voitures avaient presque l'impression de faire appel à un chauffeur. Pourquoi ? Parce que il y avait une forme de marchandisation de l'acte de partager sa voiture. Et du coup, c'était plus un acte de partage de la voiture, mais c'était un acte de « je vends finalement mon siège arrière sur mon trajet ». Et quand on achète, on n'est pas dans le même rapport à l'autre que quand on partage quelque chose avec lui. Et en ce sens, la mise sur le marché du covoiturage par BlaBlaCar pose problème ou pose question. Et c'est à cette question que Mobicop cherche à répondre.
D'accord, super. Alors je précise qu'on a récupéré Bénédicte normalement au téléphone. Donc on va pouvoir poursuivre. Et justement, on a parlé des questionnements, du souci posé par la plateforme BlaBlaCar. On va arriver aux réponses proposées par Mobicop. Alors ce que je disais en introduction, c'est sur le site de Mobicop. Alors je vais le rappeler, le site de Mobicop, c'est mobicop.fr, hein, cop avec deux O. Et on parlera tout à l'heure de cet aspect coopératif. Donc la page d'accueil du site indique « covoiturage libre, sans commission, coopératif ». Alors on va essayer d'expliquer un petit peu ces trois points. Donc on va revenir sur peut-être le point le plus simple entre guillemets, qui est le deuxième, parce que ça a déjà un petit peu abordé. Sans commission, donc Bénédicte, ça fonctionne comment pour quelqu'un, soit qui veut proposer sa voiture pour faire du covoiturage, ou quelqu'un qui cherche un covoiturage d'un point de vue financier? Est-ce qu'il faut s'inscrire sur le site? Est-ce qu'il y a quelque chose à payer? Comment ça se passe? Comment on gère cet aspect sans commission qui est indiqué sur la plateforme?
Effectivement, il y a une inscription sur notre site. Donc, je suis conducteur, conductrice, j'inscris mon trajet sur notre plateforme. Je suis passagère, je fais une recherche et puis je trouve le covoiturage qui me va bien. Et là, en fait, le prix donc est fixé en fonction de la distance et la somme que passagère je vais verser sera donc calculée. Et en fait, il y a un double intérêt pour le conducteur, c'est qu'en fait, il s'assure que son trajet donc est publié, la rémunération en fait ne fait que couvrir les frais, il n'y a rien de lucratif, donc au niveau de ses impôts, enfin, il n'y a aucun risque. Et du coup, ben, voilà, c'est un partage de voiture.
D'accord, donc ça c'est l'aspect effectivement sans commission et finalement le seul coût reste le partage, on va dire, des frais de déplacement, c'est-à-dire je suppose par exemple c'est l'essence et le péage entre les deux personnes.
Exactement.
Et ça les regarde. Donc ça c'est l'aspect sans commission donc de Mobicop. Alors je précise tout de suite pour les personnes qui écoutent, qui se disent finalement si Mobicop ne prend pas d'argent à ce niveau-là, comment Mobicop se finance ? On en parlera dans le point suivant sur le mode finalement sur le modèle économique de Mobicop. Deuxième point, le point on va dire coopératif. On viendra au point libre après. On va continuer sur cet aspect coopératif. Donc Mobicop, COP, COOP. Donc qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme coopératif, Bastien, pour commencer ?
Bah, écoute, Fred, c'est très simple. C'est que nous sommes une coopérative. Alors, on est un type de coopérative spécifique. Nous sommes une coopérative d'intérêt collectif, c'est-à-dire que peuvent entrer à notre capital et donc dans notre assemblée générale à peu près l'ensemble des parties prenantes de notre aventure, c'est-à-dire les utilisateurs, les salariés, les financeurs, les collectivités territoriales qui s'appuient sur nous et un certain nombre de partenaires. Donc aujourd'hui, en gros, quand on convoque l'Assemblée Générale, on convoque à peu près 1200 personnes. Ça veut dire qu'il y a 1200 personnes qui ont pris des parts sociales et qui aujourd'hui regardent comment la coopérative est gérée, regardent les comptes, élisent le conseil de surveillance. Le conseil de surveillance nomme le directoire. Et donc, c'est un fonctionnement démocratique dans lequel le capital n'intervient pas, puisque chaque personne qui participe à l'Assemblée Générale, quel que soit le volume de capital de la coopérative qui lui appartienne, ne représente qu'une seule voix au moment du vote. Et c'est ça la grande différence entre une coopérative et une société de capitaux, c'est que dans une société de capitaux, la personne, quand elle lève la main, sa voix est pondérée par le capital qu'elle détient, c'est-à-dire que si elle détient 70% du capital, elle va représenter 70% des votes. Chez Mobicop, quel que soit le niveau de capital, une main qui se lève égale une main qui se lève, c'est ça les coopératives.
Bénédicte, tu veux réagir ?
Oui.
Vas-y.
En fait, je voulais préciser quand même que, donc effectivement, on a un format démocratique assis, hein, mais on a également une spécificité, on est agréé entreprise solidaire d'utilité sociale. Parce que dans notre raison d'être, on a vraiment cette vocation à une mobilité partagée, une mobilité inclusive. Donc effectivement, le format coopératif, c'est une appropriation de l'outil Mobicop par ses sociétaires. La coopérative appartient à 1200 personnes. Et il y a aussi cet aspect en filigrane d'entreprise solidaire d'utilité sociale.
D'accord. Ma question, donc là, 1200, enfin j'ai deux questions, je vais commencer par la première, qui est toute simple. Est-ce qu'une personne qui souhaite utiliser le service Mobicop est-elle obligée de devenir sociétaire ou pas ?
Non, en fait, on a des utilisateurs qui sont absolument pas sociétaires. L'intérêt d'être sociétaire, c'est de peser sur l'avenir de la coopérative, de participer à nos réflexions, d'enrichir ce collectif en fait.
D'accord. Et ma deuxième question, donc vous venez de dire qu'il y a 1200 sociétaires au niveau de Mobicop. Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes qui utilisent Mobicop, c'est-à-dire pas qui ne sont sociétaires ?
Alors ça, c'est difficile, mais c'est un peu ce que j'allais dire pour répondre à ta question d'avant, c'est que Mobicop, il y a à peu près 500 000 comptes utilisateurs. Sur ces 500 000 comptes utilisateurs, il y en a 50% qui sont sur notre plateforme nationale et 50% qui sont sur les plateformes régionales que nous opérons pour le compte de collectivités locales. Et on estime que sur cette enveloppe de 500 000 comptes, il y en a à peu près 50% qui sont actifs. C'est une estimation, c'est extrêmement difficile pour nous d'avoir des statistiques exactes, pour un certain nombre de raisons qu'on détaillera peut-être par la suite. Et ça répond aussi un peu à la question d'avant, c'est que tu vois bien qu'entre 500 000 comptes dont 50% sont actifs et 1200 sociétaires, la très très vaste majorité de nos utilisateurs ne sont pas sociétaires. Mais ils savent que s'ils veulent l'être un jour, les portes de la coopérative leur sont ouvertes.
D'accord. Alors, je vais relayer une question qui est sur le salon web. D'ailleurs, je précise aux personnes qui nous écoutent en direct hein, qu'elles peuvent venir sur le salon web de la radio, hein, sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Hein. Nous diffusons, là, on est le 22 février 2022 et il est presque 16h. Il y a une question sur les 500 000 personnes. Est-ce que c'est en France ou à l'international? Parce que ça paraît beaucoup pour les gens, donc...
Alors, je continue. Oui, c'est en France. Hein.
D'accord.
Oui, c'est en France. Il y a un peu des velléités, notamment dans les pays limitrophes de la France. Mais pour l'instant, on n'a pas poussé ces feux-là parce qu'on voulait bien asseoir notre position et nos modes de fonctionnement en France. Donc là, je parle de 500 000 comptes français. Attention, j'ai bien dit que j'estimais que 50% étaient inactifs. C'est-à-dire que ces 500 000 comptes, c'est à travers notre histoire. Et donc ça représente pas des utilisateurs actifs, mais néanmoins, effectivement, c'est quand même assez important. Et ça montre deux choses. Ça montre que le covoiturage est devenu quelque chose de connu par les gens, donc ils font appel à ces genres de services. Hein. Et puis la deuxième chose, c'est qu'effectivement, pour tout un tas de gens, le fait qu'il n'y ait pas de commission sur les trajets, ça a compté. Et c'est pour ça qu'ils utilisent notre plateforme, qui est, malgré son petit nombre d'utilisateurs, parce que là la remarque semblerait dire que ça fait beaucoup d'utilisateurs, mais il faut voir qu'en face Blablacar affiche je crois plus de 20 millions d'utilisateurs hein. Mais donc ce petit nombre montre qu'il y a des gens qui sont aussi attachés à ces valeurs un peu historiques du covoiturage.
En plus, Bastien, il est magnifique parce qu'il anticipe les questions qui ont été posées sur le salon web alors qu'il n'y est pas, parce qu'effectivement, il y avait une question sur Blablacar. Je vais t'essayer de réagir, Bénédicte, excuse-moi, putain, je savais que j'allais faire l'erreur, je ne sais pas pourquoi. Mais je vais d'abord relayer la question suivante parce que c'est dans le même type de question de statistiques. Alors, je sais que ce n'est pas forcément évident de répondre, mais il y a une question sur le nombre, combien de trajets quotidiens en moyenne permis par la plateforme. Donc, peut-être que Bénédicte veut répondre ou Bastien, si vous savez l'information, bien sûr.
Alors là, moi, je suis incapable de répondre à cette question.
Bastien, est-ce que tu as l'information?
Je peux essayer de retrouver pendant le fil de l'émission, je vais regarder.
Bastien regardera et s'il le retrouve, on vous le dira dans le cours de l'émission, puis sinon on mettra ça sur le site web. Par contre, je crois que Bénédicte voulait réagir.
Oui, alors c'était par rapport effectivement au nombre d'utilisateurs et utilisatrices. C'est vrai que 500 000, comme disait Bastien, ça peut sembler beaucoup, mais voilà, c'est à pondérer puisqu'on est sur un territoire national. Donc c'est vrai qu'il y a tout un enjeu d'aller chercher des covoitureurs sur les territoires pour que chacun puisse trouver un conducteur ou un passager qui colle sur son déplacement.
Oui, tout à fait. Oui. Excuse-moi, parce que, en fait, on vient de me faire remarquer que j'avais dit un gros juron, paraît-il, en direct à la radio. Donc, c'est possible, effectivement. Alors, je vais poursuivre sur les questions en termes de nombre de personnes avant de changer un petit peu de sujet, mais parce que ça peut être intéressant. Même si on va détailler après le modèle économique de Mobicop, dans Mobicop, vous êtes combien de personnes, qui salariés ou autres, quel que soit le statut?
Alors, nous sommes 30 salariés.
D'accord. Donc ça, c'est... Voilà.
Et sur des métiers, juste, si je peux compléter.
Bien sûr.
Donc évidemment, on a des développeurs, mais on a aussi des chefs de projet, des animateurs et animatrices, puisque certes, l'outil numérique est nécessaire, mais ce n'est pas parce qu'on met une plateforme à disposition des personnes qu'ils vont se l'approprier spontanément et être à l'aise avec les outils. Donc on a une équipe d'animateurs et animatrices qui vont justement accompagner, interroger la mobilité pour faire en sorte que des personnes qui potentiellement pourraient utiliser covoiturer passent à l'acte et deviennent des covoitureurs réguliers. Donc voilà, des animateurs et animatrices, chefs de projet, des développeurs, un pôle mobilisation aussi, puisque Bastien l'a dit, il y a 1200 sociétaires chez Mobicop, donc il faut dynamiser ce sociétariat, l'animer, créer des espaces de discussion, donc il y a un gros travail aussi à ce niveau-là.
Alors justement, j'ai une question sur l'aspect coopératif. Je suppose que vous êtes proche, en tout cas, c'est plutôt une question, est-ce que vous êtes proche de structures comme Enercop, donc l'énergie renouvelable et qui est aussi sous forme coopérative, Télécop, je crois, dans le téléphone mobile, est-ce que vous êtes proche de ces structures-là?
Oh ben là, je vais laisser répondre Bastien.
Alors Bastien, Sybille.
Oui, volontiers. Bon, réponse positive, oui, absolument, nous en sommes tout à fait proches. Moi, je suis proche d'Enercop, puisque j'en suis aujourd'hui administrateur et membre du bureau, donc je suis toutes les semaines sur le dossier. Mais au-delà de ça, et de façon, je crois, intéressante pour le secteur, on a créé une alliance de coopératives qui s'appelle l'Alliance des Licornes avec deux O, qui est un peu un jeu de mots et une façon de rappeler à ces grandes entreprises qu'on appelle des licornes parce qu'elles ont une valorisation $1 milliard, supérieure à $1 milliard, alors que leur apport social est très social et écologique est très fortement questionnable. Hein. Bien donc, on a créé cette alliance licorne pour montrer qu'on peut créer de la valeur sociale et écologique sous forme coopérative. Alors, dans cette alliance, il y a des gens que tu mentionnes, il y a Télécoop, il y a Enercoop, mais il y a aussi Coop Circuit, Label Emmaüs, Raicoop, Common, qui fait de la distribution de Fairphone et autres matériel IT, il y a Cities hein, qui fait l'autopartage et puis Mobicoop sur la mobilité partagée. Donc on est et la Nef, hein, banque éthique. Donc on est neuf coopératives dans cette alliance et je crois qu'on partage des choses très fortes et parmi celles-ci, la conscience de la radicalité dont on doit faire preuve aujourd'hui dans la transformation de l'économie par rapport aux enjeux de crise écologique et donc l'importance de mettre l'écologie, l'humain avant la question financière et du résultat, même si en tant que structure économique, nos résultats sont équilibrés.
Bah, j'espère que les candidats et candidates aux prochaines élections t'écouteront. Avant de changer de sujet, je voulais juste j'avais une petite question sur le type de trajet proposé dans le covoiturage. Donc il y a les trajets sans doute réguliers de type liés à l'emploi, il y a les trajets occasionnels. Est-ce qu'il y a aussi des covoiturages qu'on appelle de crise, c'est-à-dire par exemple quand il y a des pannes ou des grèves, etc. Est-ce que c'est les trois types de covoiturage qui existent en gros, qui sont gérés sur la plateforme, ou est-ce qu'il y en a d'autres?
Alors, il y a ces trois covoiturages et puis nous, chez Mobicoop, on a développé aussi du covoiturage solidaire. Donc, qui pour rendre service, pour accompagner une personne sur un entretien, voilà, une personne empêchée, une personne âgée. Donc, voilà, mais qui sont effectivement, qui peuvent se rattacher à des trajets qui peuvent se rattacher au covoiturage ponctuel. Mais effectivement, oui, covoiturage domicile-travail, évidemment, covoiturage plus ponctuel. En fait, covoiturage du quotidien, covoiturage ponctuel et covoiturage effectivement dans le cadre voilà de grève ou autre. Mais c'est vrai que nous, on se positionne chez Mobicoop, on n'est pas là pour concurrencer les transports en commun, on est là pour compléter. On a parlé de notre coopérative, on a quand même trois valeurs fondamentales chez Mobicoop, la question de la solidarité, la question de l'environnement, la question des communs. Et effectivement, la question environnementale est très prégnante. Donc l'idée de Mobicoop, c'est surtout pas de vider les transports en commun, mais plutôt de compléter et de proposer une solution de déplacement vertueuse, en tout cas une mobilité partagée pour que l'impact de la voiture soit partagé entre plusieurs passagers. Et quand il y a du transport en commun, encourageons et remplissons nos transports en commun.
D'accord. J'ai une question sur le salon. On nous demande de nous rappeler le nom de l'alliance citée par Bastien. C'était bien Licorne avec un 2O et un S, ou c'est un autre nom?
Oui, c'est ça. C'est Licorne avec 2O, comme il y a 2O dans coopérative.
Voilà. Donc j'ai mis le site web et on mettra toutes les références sur le site de l'émission libreavoue.org. On va bientôt faire une pause musicale, mais avant, je voudrais quand même poursuivre un petit peu sur ce sujet-là. Et après la pause musicale, on abordera le sujet du logiciel libre. Récemment, si je me souviens bien, c'est l'an dernier, Mobicoop et Réseau Pouce ont fusionné. Donc toi, Bénédicte, tu es de Réseau Pouce. Et le Réseau Pouce, si j'ai bien compris, c'est plutôt l'autostop. Alors, j'aurais envie de vous poser la question, pourquoi cette fusion?
Alors, pourquoi cette fusion? Tout simplement parce qu'en fait, alors déjà, Mobicoop et Réseau Pouce travaillent ensemble depuis plusieurs années. On était en train de développer des services similaires et puis, en fait, avec des formats, donc on était Mobicoop était en SIC, Réseau Pouce en SIC également, donc des sociétés coopératives d'intérêt collectif qui étaient en train de développer des solutions concurrentes. Et du coup, en fait, c'est un peu incohérent, en fait. C'est-à-dire que continuer à travailler individuellement, ça aurait été peut-être une bonne chose pour nos égos personnels. Mais en tout cas, en termes de coopérative et de projet collectif, il nous a semblé assez logique et évident de fusionner pour travailler en complémentarité, puisqu'en fait, donc Réseau Pouce, historiquement, c'était de l'autostop, mais on avait aussi du covoiturage, on a développé aussi une solution de transport solidaire. Donc en fait, on était en train de développer sans se parler les mêmes projets. Donc on s'est dit que voilà, il était temps d'être un peu intelligent et de jouer sur nos complémentarités pour être une coopérative plus forte et proposer une diversité de services à nos clients en fait.
Ok, on va faire une pause musicale. Est-ce que Bastien, tu veux rajouter un mot avant la pause musicale ? Sur ce sujet.
Bénédicte a bien parlé.
Ok, super, ben voilà. Donc nous allons faire une pause musicale. Bah, c'est encore une découverte du site auboutdufil.com. On va écouter un artiste russe qui s'appelle Sergio Delouad, qui a pour pseudonyme Keys of Moon. Il compose essentiellement au piano et ses musiques sont toujours instrumentales. Sans texte, un artiste n'a plus que la musique pour transmettre un message ou communiquer une émotion à l'auditeur et à l'auditrice. Keys of Moon l'a bien compris en jouant avec le rythme et l'intensité du morceau. Il parvient à créer des musiques expressives et chargées d'émotions. Le morceau que nous allons écouter, qui s'appelle The Epic Hero, est une musique épique. Ce titre de musique cinématique pourrait tout à fait être la bande-son d'une scène épique au cinéma, au théâtre ou dans un jeu vidéo. À l'écoute, on se plonge volontiers dans une histoire d'héroïsme, de combat et de sacrifice. Nous allons donc écouter The Epic Hero par Keys of Moon. On se retrouve dans 2 minutes 30. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. D'écouter The Epic Hero par Keys of Moon, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune. Puis un podcast.
Nous sommes toujours en direct, je suis Frédéric Couget, délégué général de l'April. L'émission du jour est consacrée au covoiturage libre, sans commission, coopératif, avec nos invités Bastien Sibyl, président de Mobicop, et Bénédicte Rose, directrice générale de Mobicop. N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Juste avant la pause musicale, on a parlé notamment de l'aspect sans commission coopératif de Mobicop. Maintenant, on va parler un petit peu de l'aspect libre, hein, parce qu'après tout, on est une émission quand même sur les libertés informatiques. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière le mot libre de Mobicop, Bastien Sibyl ?
Alors, ce qu'on a derrière le mot libre de Mobicop, écoute, c'est quelque chose d'assez simple et sans doute assez commun pour les auditeurs et auditrices de l'émission. C'est que Mobicop Platform, qui est donc le logiciel sur lequel on fait tourner à la fois l'instance nationale Mobicop.fr, mais aussi toutes les instances régionales qu'on installe pour les régions, les départements, les collectivités territoriales, cette plateforme est développée sous une licence AGPL. Et ça a été pour nous
Juste de poursuivre, il faudra que tu précises ce que veut dire la licence AGPL, quelle est sa spécificité. Donc soit tu le fais maintenant, mais il faudra que tu le précises.
Écoute, je pense que tu le feras mieux que moi. je te laisse le faire, puis après je continuerai.
Alors la licence AGPL, qui veut dire Afero General Public License, est une licence qui permet en fait, notamment pour des plateformes, donc notamment des sites web, de garantir l'accès au code source de la plateforme et de ses versions modifiées. Voilà, on va pas rentrer dans l'historique, mais on mettra sur la page de référence de l'émission un document qui explique ce type de licence. Donc c'est une licence très largement utilisée dans le monde du logiciel libre. Et donc la plateforme Mobicop est sous licence donc AGPL. Et donc je te laisse poursuivre sur les raisons de ce choix d'une licence libre.
Oui, en fait, c'est un choix qui était à la fois pour nous très évident et qu'il a été très difficile de mettre en œuvre. Alors, sur le côté très évident, nous sommes une coopérative d'intérêt collectif. Nous agissons pour les acteurs publics. Les acteurs publics financent notre action et donc financent du développement de code informatique. Et donc, il nous a semblé que cet argent devait, une fois qu'il était investi dans du code, pouvoir être réutilisé, le code réutilisé par d'autres acteurs publics. C'est un peu l'idée qui a présidé à la forge de la Dulacte, etc. C'est-à-dire qu'un euro public investi par un acteur public doit pouvoir servir aux autres acteurs publics. Donc nous sommes un acteur d'intérêt général, nous travaillons pour les acteurs publics, et donc on a voulu que notre code soit dans cet esprit-là et permette aux collectivités territoriales d'avoir des outils de mobilité partagée qui les rendent autonomes et non pas dépendants de la coopérative qui doit rester pour elles et eux un outil. Voilà. Alors, quand je dis ça, bon, je crois que c'est très évident. Nous, on se vit comme un bien commun. Souvent, au début, quand je racontais l'histoire de Mobicop il y a quelques années pour faire comprendre aux gens, je leur disais, mais vous savez, Mobicop, on essaye de construire le Wikipédia du covoiturage, quoi. Donc, c'est sûr que le fait d'avoir une infra libre, c'était assez évident. Pour autant, ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que c'est quand même des assez grosses infrastructures logicielles. Hein. Et donc, il a fallu libérer notre code. C'était un code qui avait 4 ou 5 ans.
Ah, attends, excuse-moi, pour bien comprendre, en fait, donc dans l'histoire de Mobicop, le code de Mobicop Platform n'était pas libre initialement. C'était un développement interne, on va dire, propriétaire classique. Et à un moment, vous avez décidé de libérer ce code, c'est ça ?
Alors, je raconte l'histoire en détail parce qu'elle est hyper intéressante. En fait, il y avait l'association Covoiturage Libre. Nous, on avait la plateforme nationale. Et là, pour tout te dire, il n'y avait même pas de licence sur le code. C'était vraiment un code hyper simple. C'était un petit outil de publication, d'annonce, mais il n'y avait rien de très compliqué derrière ça. Il n'y avait aucun SIG, etc.
SIG, c'est système d'information géographique, c'est ça ?
Exactement. Okay. Exactement. Il y avait une belle communauté d'utilisateurs et d'utilisatrices. Et de l'autre côté, il y avait une entreprise qui s'appelait Covivo, qui travaillait pour les collectivités territoriales depuis 10 ans et qui, elle, avait développé en interne un logiciel de covoiturage pour les collectivités territoriales. Et ce logiciel était sous licence propriétaire. Et moi, j'avais dit à Mathieu Jacquot, qui est aujourd'hui directeur général de Mobicop et qui était président de cette entreprise, je lui avais dit il y aurait des raisons de nous rapprocher, mais tant que le logiciel ne sera pas libre ou que vous ne serez pas sous forme coopérative, on ne pourra pas le faire. Et au même moment, la région Bretagne, ainsi que 70 autres collectivités territoriales de l'ouest de la France, dont des collectivités importantes, hein, Rennes Métropole, Nantes Métropole, le département du Finistère, etc., ont passé commande à Covivo pour qu'ils leur livrent un code logiciel sous format libre. Et de ce moment-là, en fait, on a pu rapprocher l'entreprise Covivo et l'association Covoiturage Libre, en faire la coopérative Mobicop, s'appuyant sur une infrastructure logicielle libre, Mobicop Platform. Mais ça nous a pris 2 ans pour refondre notre code informatique pour qu'il soit suffisamment de suffisamment bonne qualité pour pouvoir être libéré. Et ça a vraiment été extrêmement lourd, extrêmement dur. C'est 2 ans à une dizaine de développeurs salariés temps plein, plus un certain nombre de prestations externes, etc. Donc c'est un investissement pour la coopérative de près d'un million d'euros. Donc quelque chose de très conséquent.
D'accord, c'est très intéressant. Je précise sur le salon web que je vois les questions. Je vais les relayer. Alors oui, tout à l'heure, je voulais juste te dire, tout à l'heure, tu as parlé de forges et de l'adulacte. Alors peut-être que les gens n'ont pas compris forcément ce que c'était. Les forges, c'est des sites web sur lesquels en fait on met du code logiciel et qui un certain nombre d'outils qui permettent de favoriser le développement des logiciels. Alors les logiciels peuvent être libres ou pas d'ailleurs. Et l'adulacte, c'est l'association des développeurs et des utilisateurs et utilisatrices de logiciels libres dans l'administration et les collectivités territoriales qui donc propose effectivement une forge et d'autres en proposent largement. D'ailleurs, si vous voulez en découvrir, vous pouvez en découvrir sur le site du chapril.org, sur lequel on propose un certain nombre de services libres, dont une forge. Mais bon, ça c'était juste pour préciser le terme forge et adulacte. Je vais relayer une petite question qui est un peu qui est pertinente, hein, d'ailleurs, alors c'est user611 qui dit « C'est dommage, il n'y a pas de lien vers le code source en bas du site. » Et effectivement, l'une des obligations de la licence AGPL, c'est que sur le site web, il doit y avoir un lien vers le code source. Alors, effectivement, pourquoi en bas du site, il n'y a pas un lien vers la forge sur laquelle se trouve le code source de Mobicop Platform ? Bastien ?
Eh bien, c'est une erreur. Et donc, comme on le fait dans le monde du libre, quand on voit une erreur, on la corrige. Donc, merci à user 501 ou 611. 611, merci beaucoup. Et donc, on va corriger ça. Le code est accessible sur GitLab. Hein,
c'est oui, vraiment, on mettra le lien complet. Oui.
Ouais, voilà.
Alors, après, j'ai d'autres questions sur la partie effectivement libre. Peut-être qu'on verra à la fin, parce que notamment sur les aspects applications et autres. Mais avant de cela, essayez un peu de plus comprendre en fait qui développe donc Mobicop Platform. Donc, on a bien compris que donc ça a été du code qui a été libéré avec un travail conséquent avant la publication donc sur la forge. Aujourd'hui, en fait, qui contribue à Mobicop Platform, c'est-à-dire au code ? Est-ce que c'est uniquement les personnes de Mobicop ? Est-ce qu'il y a des personnes externes qui contribuent ?
Alors, soyons clairs, aujourd'hui, c'est essentiellement l'équipe de Mobicop. Je pense pour plusieurs raisons, dont la principale est sans doute que au jour d'aujourd'hui encore, Mobicop n'a pas tout à fait suffisamment de ressources pour animer du développement extérieur. Mais j'espère que ça changera assez vite. Après, il y a des débuts de partenariats. Par exemple, des collectivités aussi importantes que le Grand Lyon, la métropole du Grand Lyon, regardent de façon assez attentive si elles ne pourraient pas elles-mêmes développer des instances. Voilà, on a des contributions plus marginales sur de la traduction, ça a été traduit en 5 langues, etc. Mais je dirais que ça prend du temps, quoi. C'est-à-dire, ça nous a pris 2 ans pour libérer, et maintenant, pour réussir à agréger des compétences pour venir contribuer et développer vraiment des nouveaux modules, bah, ça va peut-être nous prendre encore quelques années, quoi. Mais la route est devant nous.
La route est libre, la voie est libre. J'ai voilà. Une autre question d'ailleurs en ce qui est un petit peu proche par rapport à ça. Alors attendez, il faut juste que je la retrouve parce que ma collègue pose les questions et après elle l'épingle. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous prévoyez, ou est-ce que c'est déjà le cas, de donner la possibilité aux personnes utilisatrices de la plateforme de remonter des anomalies ou de proposer de nouvelles fonctionnalités ?
Alors oui, c'est marrant, j'avais une réunion tout à l'heure justement sur la question de la hotline. Nous, on a une hotline et c'est à peu près, pour vous sachiez, c'est à peu près 2 jours/semaine d'une personne pour répondre à tous les mails qu'on reçoit. Et donc ces mails, quand ils nous remontent des anomalies, sont transformés en tickets qui sont transmis à l'équipe technique. Après, sur les questions des évolutions fonctionnelles, il y a plusieurs choses. D'abord, on a un cercle de gouvernance qui s'appelle stratégie de la plateforme, dans lequel les sociétaires qui veulent dire des choses sur l'évolution de la plateforme, bien sûr, réunissent pour orienter sa feuille de route stratégique. Alors, ça peut être des personnes physiques, des développeurs, des utilisateurs, etc. C'est aussi des partenaires ou des collectivités territoriales utilisatrices du logiciel. Ça, c'est un premier élément. Et puis, il y a un deuxième élément qui est que, de temps en temps, quand on est dans des phases fortes d'évolution de notre infrastructure, ou au moins de ces éléments fonctionnels d'interface, on sonde notre communauté. Alors, on a la chance d'avoir une communauté assez vive, il y a un peu plus de 30 000 personnes sur Facebook, et donc on les sonde sur la priorisation de certaines évolutions ou sur des évolutions qu'on n'aurait pas envisagées. On essaye, juste pour finir là-dessus, on essaye de ne pas créer trop de frustration non plus, parce que c'est pas facile entre le fait de se dire, et on le voit bien, il y a plein de trucs qu'on aimerait modifier sur la plateforme, mais encore une fois, on le fait à périmètre constant de l'équipe de développement, et donc c'est pas évident de prendre toutes les remontées des demandes d'évolution qui le plus souvent sont légitimes et bien vues. Hein.
Alors justement là-dessus, vas-y Bénédicte.
Pardon, juste préciser qu'en fait MobiCop, l'équipe de développeurs, c'est 6 personnes, donc c'est quand même une petite équipe. Donc alors là pour le coup c'est ma casquette RH, mais on est aussi vigilant à pas les épuiser non plus, parce qu'effectivement il y a de la frustration. Hein. Être salarié chez MobiCop, c'est être engagé. Ce sont des personnes compétentes, mais qui en plus portent ce projet-là. Donc voilà, notre rôle, c'est aussi de faire attention à les chouchouter, justement, pour qu'ils puissent être là sur la durée. Et c'est vrai que, comme dit Bastien, il y a énormément d'envie, énormément de chantiers, mais il faut prendre le temps et se laisser le temps de faire les choses.
Oui, tout à fait. Et c'est très bien que tu rappelles l'importance de préserver les équipes salariées, parce que il y a beaucoup de structures où c'est pas du tout le cas. Avant de passer au sujet suivant sur le modèle économique, parce que je vois que le temps avance, je vais poser la dernière question, justement sur les retours dont tu parlais, Bastien, parce qu'en préparant l'émission, donc j'ai posté sur un de mes messages en disant, je vais avoir le plaisir de recevoir MobiCop. Est-ce que vous avez des retours? Et en fait, les retours que j'ai eus ont tourné tous un petit peu autour des mêmes sujets. Alors je précise que j'ai envoyé évidemment les questions, avant à Bastien et Bénédicte, mais en gros c'est revenu sur deux sujets principaux, donc je vais faire une question globale qui est, premier sujet, c'est un peu l'utilisation d'outils Google, alors notamment Google Analytics pour les sites web au niveau de l'analyse en fait des données, l'utilisation des fontes Google également qui pose un certain nombre de problèmes, on fait référence à certaines décisions récentes qu'on mettra sur le site web, ça c'est la première chose. Et la deuxième, c'est sur la partie, mais qui est un peu liée aussi, sur la partie application mobile. Aujourd'hui l'application mobile est disponible donc sur l'Apple Store et le Google Play, mais il existe un magasin d'applications libres qui s'appelle F-Droid, f-droid.org. Vous pouvez installer cette application et ensuite vous avez accès à plein de logiciels libres. Et il se trouve que donc MobiCop n'est pas pour l'instant sur F-Droid parce que la version mobile utilise un outil d'analyse qui est Google, de Google, qui est propriétaire et qui en plus piste les personnes utilisatrices. Alors par rapport à ça, est-ce que ça va être pris en compte? Alors on a bien entendu la taille de l'équipe, mais voilà. C'est par rapport à ces problématiques en gros liées à l'utilisation d'outils Google. Bastien, peut-être.
Alors, oui, c'est une question qui est pas évidente, et je voulais remercier Olivier Sarah qui participe pas à cette émission, mais qui le ferait mieux que moi, parce que c'est lui qui est à la manœuvre de tout ça et qui m'a apporté un certain nombre d'éléments de réponse. Pourquoi c'est pas évident? Parce qu'on est toujours tiraillé entre, je dirais, trois angles du triangle. Il y a un angle qui est notre volonté absolue d'être le plus proche de nos valeurs, du libre, du bien commun, etc. etc. Bon. Il y a un autre angle qui est notre capacité de développement. Comme l'a rappelé Bénédicte, on n'a pas une capacité infinie et donc on ne peut pas faire les choses exactement comme on aimerait à chaque fois. Et puis il y a un dernier angle qui est la qualité de l'expérience utilisateur. Et quand je dis expérience utilisateur, mais c'est aussi l'expérience de nos clients qui sont les collectivités territoriales. Alors une fois que j'ai dit ça, eh bien il y a certaines zones, alors qu'on essaye de contraindre le plus possible, de rendre le plus possible petite, mais sur lesquelles il y a des outils, pour l'instant on n'arrive pas à remplacer avec nos petites mains et nos petites forces. Alors pour les dire rapidement, effectivement on n'est pas sur F-Droid parce qu'il y a Firebase, mais le problème c'est que c'est un outil Google cross-platform qui nous permet en gros d'être présent sur Android et iOS, et pour l'instant on n'a pas trouvé autre chose et on peut pas nous le développer. Donc on est bien ennuyé, mais c'est comme ça. Google Analytics, alors là où on le peut, depuis 2 ans, sur notre plateforme nationale, et dès qu'on le peut auprès de nos clients, on est passé sur Matomo. Matomo, c'est la nouvelle version de Piwik, c'est les plus anciens d'entre nous, donc logiciel libre de statistique. Néanmoins, on a des clients, des collectivités territoriales, qui veulent absolument travailler avec Google, et c'est là que nous, et sans doute Bénédicte dira-t-elle un mot après notre modèle économique, mais Nous, on vit de ce que nous donnent les collectivités territoriales pour faire de la prestation pour elles. Quand une collectivité nous dit on veut Google Analytics, on n'a pas le choix, c'est contractuel, on l'installe. Et enfin, sur les fontes, on a fait une jolie mission avec une agence graphique qui s'appelle Cheval Vert, qui nous a fait une fonte Mobicop, qui est celle de notre logo. Hein, donc, c'est la police Mobicop, elle est super chouette, je l'aime beaucoup. Simplement, elle n'est pas du tout compatible avec tous les navigateurs, et donc on a cherché une fonte qui soit la plus proche possible d'elle et qui soit libre. Alors, je veux bien qu'il y ait des problèmes avec les fontes Google, aucun souci pour le dire. Là, c'est quand même une ce qu'on appelle une open font licence, OFL, qui répond aux préco de la FSF, de la Debian Free Software, des Debian Free Software Guidelines. Donc, on a quand même essayé de faire au mieux. Et là encore, avec cette contrainte de la plus grande compatibilité avec les navigateurs sur cette fonte Poppins.
On va pas rentrer dans tous les détails, parce que je vois que ça réagit aussi sur le salon web, et j'encourage les gens à faire des remontées à Mobicop sur cette amélioration, parce qu'effectivement pour Matomo ça dépend aussi de la configuration, mais voilà, on voulait faire ces retours, et surtout que je vois le temps passe et que depuis tout à l'heure il y a un sujet qu'on doit absolument aborder. T'as commencé à le faire effectivement, et on a bien senti que l'importance des collectivités, c'est sur le modèle économique de Mobicop, parce que tout à l'heure on a bien compris que pour les personnes utilisatrices, c'était sans commission, c'était gratuit, mais on a entendu aussi qu'il y a une équipe de Mobicop. Donc, c'est quoi le modèle économique de Mobicop ? Parce que les gens qui nous écoutent se disent, mais si c'est gratuit, qui paye en fait pour ce genre de truc ? Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Ce genre de truc, ça se dit pas. Donc, c'est quoi le modèle économique de Mobicop et quel est le lien avec les collectivités dont vous avez parlé à plusieurs reprises ? Qui veut commencer ?
Alors,
Bénédicte.
Alors, c'est moi qui vais commencer. Mais Mobicop, en fait, la mission de Mobicop, c'est d'accompagner des entreprises et des collectivités territoriales dans le déploiement de solutions de mobilité. Donc, effectivement, nos clients, ce sont des entreprises qui souhaitent déployer du covoiturage, ce sont des collectivités, ça peut être des régions, ça peut être des parcs naturels régionaux, des communautés de communes. Et donc, eux payent un abonnement ou, dans le cas d'une région, des développements spécifiques et nous permettent, en fait, et c'est ce qui nous permet à la fois d'assurer la gratuité pour les utilisateurs et qui nous permet, ce sont aussi ces abonnements qui nous permettent de maintenir la plateforme nationale Mobicop. Et donc de pouvoir garder ce covoiturage longue distance et en fait ces abonnements là en fait dont nous permettent de faire fonctionner notre coopérative. Il y a aussi l'idée que quand on fait des développements on essaie de les partager au plus grand nombre et donc on s'appuie effectivement on s'appuie sur des collectivités et on reste tributaire des demandes de ces collectivités quand il y a des demandes un peu spécifiques, parce qu'en fait c'est toujours la complexité d'une coopérative, c'est-à-dire que on reste une entreprise, donc il faut que à la fin du mois on puisse payer les salaires des 30 salariés et avancer.
Oui, tout à fait. Oui. Donc c'est que les collectivités ou est-ce que aussi il y a du même type de service pour les entreprises ? Parce que je suppose que des entreprises pour des événements privés ont peut-être besoin de covoiturage. Est-ce que vous proposez aussi du service via abonnement ou paiement pour les entreprises ?
Oui, on propose du covoiturage pour les entreprises ou de la gestion de flotte. Alors la gestion de flotte, enfin, pour préciser, c'est je suis une entreprise, j'ai 15 véhicules, j'ai besoin d'un outil pour gérer les entrées-sorties, pour pousser aussi au covoiturage, parce que toujours dans notre logique d'environnement, de préservation de l'environnement et de soleil, l'idée c'est qu'une voiture, un salarié qui part en réunion, s'il y a d'autres personnes qui vont au même endroit au même moment, on encourage le covoiturage avec cet outil de gestion de flotte.
D'accord. Bastien, sur cet aspect modèle économique, je suppose que tu veux compléter ?
Bénédicte a bien parlé. Juste pour vous donner une répartition, en gros, c'est 80% du chiffre d'affaires avec les collectivités territoriales et 20% avec des organismes privés qui d'ailleurs peuvent parfois pas des entreprises. On travaille avec France Terre d'Asile, par exemple, la Croix-Rouge, etc. Mais voilà, c'est pour ça que spontanément, on parle des collectivités qui est 80% des gens avec lesquels on travaille, mais il y a effectivement quelques entreprises.
Alors justement, sur le salon web, les personnes sont un peu curieuses. On nous demande, est-ce qu'on peut avoir des noms d'entreprises et ou collectivités ? Peut-être un peu symboliques, ou majeures, Bastien ou Bénédicte.
Moi, je peux en donner quelques.
Vas-y.
Oui, bien sûr, volontiers. Je vous citais tout à l'heure la métropole du Grand Lyon. Il y a aussi la région des Hauts-de-France via le dispositif passe-passe covoiturage. Je vous citais les 70 collectivités territoriales de l'Ouest, donc la région Bretagne, la région Pays de Loire, le Finistère, Nantes, Rennes, etc. Donc ça s'appelle Ouest-Go. La région Auvergne-Rhône-Alpes avec le dispositif Movici. Je vous ai cité la Croix-Rouge et France Terre d'Asile, mais il y a aussi, par exemple, EDF qui fait appel à nous, ou les caisses d'allocation familiale. Enfin voilà, bon, je ne vais pas vous détailler, on a plus de 200 clients, donc je ne vais pas. Mais voilà, ça vous donne quelques idées.
Et est-ce que vous avez un petit peu des dons ? Est-ce que vous sollicitez des dons de particuliers ?
Alors, on a notamment quand on était sous format associatif et puis un peu sous forme coopérative, mais de façon beaucoup plus marginale, eu un programme de dons, notamment via l'ILO. Je ne sais pas si vous connaissez
le moteur de recherche.
Vous savez, c'est avec le moteur de recherche avec les gouttes. Donc voilà, mais il faut bien voir que c'est à la fois toujours très précieux, mais presque plus parce que ça montre que les gens sont attachés à la coopérative.
Oui, c'est ça.
En termes de budget, le budget de la coopérative, c'est presque 100 000 euros par mois. Hein, et là, on parle de quelques centaines d'euros par mois. Donc,
d'accord. Oui,
c'est plus marginal. Hein.
Ok, alors le temps il passe super vite, il me vient une question quand même, avant la question finale de synthèse. Là, j'ai dit à deux reprises qu'on était dans une période préélectorale, donc à la fois l'élection présidentielle et les élections législatives. Est-ce que vous avez des demandes ou est-ce que vous avez des souhaits, des choses que vous aimeriez voir mises en œuvre pour faciliter le covoiturage ou l'autostop, donc la mobilité partagée, on va dire, globalement, comme vous l'appelez. Est-ce que quelqu'un a une idée ou vous n'avez pas vraiment de demande particulière ou d'idée particulière sur ce qui serait nécessaire d'un point de vue, on va dire, politique ou législatif ?
Il y a quand même des choses qui vont dans le bon sens avec la loi d'orientation des mobilités qui permet, enfin, le forfait mobilité durable qui pousse le covoiturage. Mais par exemple, il y a des choses moi, qui m'étonnent toujours. Je pense notamment à Pôle emploi qui actuellement participe financièrement aux frais de transport en commun des personnes qui sont en recherche d'emploi. Enfin, Pôle emploi peut les soutenir et par contre, pas le covoiturage. Donc, il y a cette petite étape à faire et à penser pour que le covoiturage soit perçu vraiment comme un mode de déplacement au même titre que les transports en commun. Il y a énormément de territoires qui n'ont pas de solution, qui n'ont pas de transport. L'accès aux gares est compliqué, donc il y a encore ce travail à faire. Après, je pense que on l'a beaucoup dit, il y a toujours la spécificité en fait société coopérative qui essaie de se démarquer dans sa façon d'appréhender les choses, mais qui pour autant reste liée aux contraintes de l'économie classique. Donc c'est toujours, on est toujours entre ces deux prérogatives, ces deux exigences en fait.
D'accord. Sur cette question, Bastien, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ?
Très rapidement, notre enjeu, c'est de réduire le nombre de voitures dans les rues. Les gens en ont marre qu'il y ait autant de voitures dans les rues. Donc oui, la puissance publique a des choses importantes à faire pour réduire l'usage de la voiture individuelle. Et ces choses importantes sont extrêmement larges. Elles dépendent de la façon dont on aménage l'espace. Elles dépendent, et quand je dis qu'on aménage l'espace, c'est-à-dire où est-ce qu'on travaille, où est-ce qu'on consomme, où est-ce qu'on vit. Elles dépendent de la façon dont on aménage la voirie. À quand des vraies lignes réservées aux voitures où il y a plusieurs personnes dans la voiture? À quand des vrais espaces pour prendre des gens en covoiturage? Donc là, oui, on a besoin de politiques publiques qui soit volontaire pour réduire l'empreinte de la voiture qui est, il faut le dire, dans nos centres-villes, hallucinant en fait. L'espace public est juste bouffé par la bagnole, pour le dire de façon un peu triviale.
D'accord. Écoutez, merci tous les deux. On va passer à la dernière question, la question traditionnelle du sujet long. Hein. Donc, pour conclure, quels sont les éléments clés à retenir de cette émission, selon vous, en moins de 2 minutes, chacun et chacune? Alors, qui veut commencer?
Moi, je peux peut-être commencer,
Bastien.
Comme ça, Bénédicte aura le dernier mot.
Vas-y, Bastien.
Oui, moi ce que je pense qu'il faut retenir, c'est un, le partage de la mobilité, des mobilités individuelles, elle sera toujours gagnant par rapport à essayer d'améliorer sur le plan technique la consommation d'énergie des véhicules. Donc, un, l'innovation d'usage, c'est on partage les véhicules. Deuxièmement, puisqu'on est sur une émission qui est liée au logiciel libre, toujours penser la finalité de l'action, créer un logiciel libre, avec la gouvernance de la structure qui porte cette finalité. Et là, j'attire l'attention de nos auditeurs, de nos auditrices, sur les formes coopératives qui sont en extrême adéquation avec la finalité qui est le logiciel libre.
Ben écoute, merci Bastien. Bénédicte ?
Alors moi je suis, alors c'est aussi mon biais réseau pouce, c'est que en fait, donc effectivement on a beaucoup parlé de logiciel libre, mais du coup on parle de logiciel. Le travail de Mobicop, c'est vraiment d'impulser un changement de mobilité, d'interroger les personnes sur leur façon de bouger, pour, comme l'a dit Bastien, enlever des voitures des centres-villes et puis de la circulation, et faire qu'on arrête d'être tout seul dans nos voitures pour faire nos allers-retours. Donc c'est toujours donc remettre les outils à leur juste place et se rappeler qu'on est société coopérative d'intérêt collectif. Donc voilà, les outils à leur juste place. Et pour moi, la place prépondérante, quel que soit le sujet, ça reste l'humain. Et donc voilà, l'humain au centre de nos préoccupations, au centre de la mobilité. Et en fait, c'est se dire que bah, ok, une personne a besoin de se déplacer, mais en fonction de son déplacement, ben elle peut marcher, elle peut prendre son vélo, elle peut aller prendre un bus, prendre un train. Voilà, c'est penser la mobilité de façon très globale et dans un système le plus riche possible.
Ben écoute, merci Bénédicte de rappeler que l'humain doit être au sein des politiques publiques. Je vais préciser qu'on a parlé plusieurs fois d'Enercop tout à l'heure, que donc énergie renouvelable et sous forme coopérative. On a reçu Enercop dans Libre à vous, hein, si vous voulez en savoir plus sur Enercop et notamment son usage du logiciel libre, c'est dans l'émission 46, donc c'est sur libreavoue.org/46. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup. Donc on était avec Bastien Sibyl, président de Mobicop, Bénédicte Rose, directrice générale de Mobicop. Donc le site de Mobicop, c'est mobicop.fr avec COP avec deux O. Écoutez, je vous souhaite une belle fin de journée à tous les deux et puis sans doute à bientôt.
Merci beaucoup.
Merci, à bientôt.
À bientôt.